Et ça me vient absolument de mes parents.
Fait que si tu peux inspirer quelqu'un en parlant de ce genre de choses que tu fais une fois de temps en temps, je pense que les gens qui font ce genre de choses-là se doivent de le faire, puis de le mentionner une fois de temps en temps, sans pour nécessairement passer pour des gens qui sont hautains puis qui se considèrent comme étant de bonnes personnes. Puis je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui vont faire 50 ans de bénévolat qui n'en parleront jamais à personne.
C'est vrai?
C'est leur petite affaire, puis c'est bien correct. Moi, c'est vraiment des gens qui étaient autour de moi, qui m'ont inspiré, puis qui m'ont toujours dit, ben je t'en parle souvent, là, de la famille La Montagne, t'sais. Ils m'ont accueilli chez eux alors que j'avais quelques jours de vie, puis ils étaient au gala de lutte à 80 ans pour voir le combat du petit cul qu'ils avaient accueilli, tu sais. Fait que moi, ils m'ont montré que c'était important de redonner aux prochains. Fait que depuis ce temps-là, moi, j'essaie le plus possible, puis de redonner quand je peux. Je peux pas tout le temps, là. Sinon, il y en a qui vont dire, ah, donne tout, mais... À un moment donné, t'essaies d'aider, puis ça fait une petite différence. Mais pourquoi on en est rendu là? Ah oui, ben c'est ça. Il y a des gens qui me disent, hey Yann, moi, avant, j'étais un peu comme ça. T'sais, les gens qui étaient seuls, je vais juste lire le message. Là. Aussi drôle que pour moi. Attends un peu. Aussi drôle pour moi et que bizarre pour d'autres, je pouvais manger une fondue chinoise seule un samedi soir devant la télé. Moi, ça me faisait plaisir. D'autres trouvaient ça triste.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment une question de perception. Puis je pense que c'est parce qu'on projette sur nous. Tu sais, dans le sens que je sais pas, là, cet auditeur-là, là, possible que moi, mettons, je me serais dit à Colin, c'est-tu parce qu'il n'y a personne de disponible cette soirée-là? Tu projettes un peu selon comment toi tu réagirais, j'ai l'impression. Fait que peut-être que ceux qui trouvaient ça triste, c'est simplement parce que c'est pas le genre d'affaire qu'eux se permettraient de faire seuls. Mais ça s'apprend, je pense, ces choses-là. Il faut comme que tu te mettes inconfortable et que tu apprennes à être bien toi-même au final.
Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai souvent mentionné. Moi, je suis parti des sept mois, malheureusement, aux États-Unis. Normalement, c'est six parce qu'après ça, tu as des problèmes. À sept mois, je te confirme que tu as des problèmes.
Oui, hein?
Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait des voyages pendant deux, trois semaines. J'ai fait la route 66 tout seul. Puis tu apprends à te connaître.
Ouais.
Puis tu apprends mais moi, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas du tout à mon affaire régulièrement, tu sais. Puis là, ben j'étais à moto, puis là, il me manquait plein d'affaires. Ou à la dernière minute, je me disais, ah ben, faut que j'aille dormir dans un hôtel. J'arrivais à l'hôtel, puis c'était des petites bourgades, là, c'était des petites villes.
Plus de place.
Puis il n'y a plus de place, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Fait que là, ah ben, faudrait que tu sois peut-être plus prévoyant. Quand tu voyages, pas des voyages de luxe comme toi, tu vas faire, là, mais quand tu voyages tout seul, puis tu te mets intentionnellement, des fois, dans des situations qui peuvent te permettre d'en savoir plus sur toi, t'apprends un peu plus à te connaître puis à accepter des fois la solitude.
Ouais.
J'aurais aucun problème à passer 6 mois tout seul maintenant en voyage avec un sac à dos.
Mais quand tu rencontrerais du monde.
Mais t'sais. Quand j'étais jeune, c'était une peur terrible d'être seul. On avait l'impression qu'on n'existait pas. On était au secondaire, être seul, si t'étais seul, t'étais, mes gars m'en ont parlé en fin de semaine, t'étais un rejet.
Ouais.
Mais plus tard, t'apprends qu'être le rejet, ça peut être cool une fois de temps en temps, même si t'en es pas un, parce que t'as tes petits moments à toi.
Moi, c'est quelque chose que je trouve encore difficile pour être super honnête. Tu sais, d'être seule, il y a des moments où j'ai le goût, tu sais, où je vais m'imposer des... Mais tu sais, souvent, c'est des moments où je vais me stimuler aussi, là, tu sais, où je vais m'occuper, je vais écouter une série, tu sais, je vais me faire une soirée toute seule, mais prévue cette soirée-là. D'être toute seule devant l'imprévu, par exemple, c'est quelque chose que j'apprends encore à... Je te dirais à manipuler là, dans mon quotidien, là. Je tiens un exemple super banal.
As-tu déjà été prendre une bière seule ou un verre seul dans un bar?
Non.
Un resto bar?
Non, attends. Oui, mais c'était pas parce que je suis pas allée, mettons, à l'Archibald prendre une bière toute seule. J'étais allée au spa toute seule et donc j'étais allée manger au restaurant toute seule. Mais il y avait un contexte. Fait que c'est ça, j'ai encore la difficulté à juste me dire bon, j'ai rien à faire. Je vais aller lire dans un bar ou je vais aller... j'ai pas encore ça. T'sais, la seule affaire que j'ai fait seule pour la première fois que je répète maintenant chaque année... Je l'ai pas faite parce que je voulais le faire. Je l'ai fait parce qu'on m'a laissé tomber cette journée-là. Je devais aller pendant le temps des fêtes, justement, en journée de fille au spa avec une amie. Puis elle a eu un empêchement. Puis bon, c'était déjà réservé, payé. Fait que je me suis pointée quand même. Puis c'est niaiseux, Yann, là. Aller passer une journée au spa toute seule, tu fais de quoi? Le spa, la barre d'homme, là. Mais j'étais tellement stressée, là. C'est comme si c'était anxiogène pour moi de me dire, mais là, je vais être seule dans les bains pendant que tout le monde est avec quelqu'un. Je saurais pas quoi faire. Puis là, tu vois, j'ai apprécié ma journée, fait que maintenant, je la répète chaque année. Puis pour moi, c'est une fierté, mais c'est con, là. Ouais. C'est une journée, imagine.
Puis peut-être que c'est en vieillissant qu'on découvre ça, là, le fait que c'est parfois le bonheur d'être seul. Mais que tu aies une maison remplie d'enfants, là. Tu sais, nous autres, on en a deux petits gorlots,
ouais,
qui sont les miens. Puis une préfab qui est un peu plus vieille,
j'adore,
qui est vraiment hyper responsable. Puis l'autre qui est autour de 11 ans, qui est hyper responsable aussi. Mais quand sont les quatre ensemble, sont les quatre un à côté de l'autre dans le salon, puis ils se crient après en se parlant, puis ils ont bien du plaisir. Puis là, toi, t'es dans le salon, puis t'essaies d'écouter ton hockey, mettons. Et que quand ils sont pas là, tu l'apprécies.
Il y a peut-être ça.
T'es aimes, là!
Il y a peut-être ça.
C'est les gens que t'aimes le plus au monde, c'est ta famille. Mais quand ils dégagent...
Ça fait du bien. C'est sûr, tranquillité d'esprit.
J'ai assez hâte d'être grand-père.
Yeah. Oh. Hein?
C'est des bébés, t'es amènes chez vous, tu joues avec eux autres.
Puis t'y redonnes quand tu commences
à
être tanant.
Rapporte la balle, tire la balle, rapporte la balle. Ça, c'est un chien, excuse-moi.
Ouais, c'est
ça, mais bref, tu t'amuses avec eux autres, puis une fois que t'es brûlé, tu t'en vas reporter à la maison.
T'as-tu hâte de vieillir?
En fait, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, j'avais une peur épouvantable de vieillir parce
Pourquoi?
Que je trouvais que ça venait avec des grosses responsabilités. Mm-hmm. Puis, j'étais pas prêt à affronter ces grosses responsabilités-là parce que j'étais un irresponsable. J'étais quelqu'un qui détestait avoir des responsabilités. Moi, j'étais un gars qui tripe sur la liberté. Je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, à l'heure que je veux. À 20 ans, c'est possible. Mais rendu à 30 ans, quand les enfants arrivent dans l'eau, puis la blonde un peu plus sérieuse,
c'est plus la, même game,
la blonde s'aidée, la job que t'aimes, tu sais, qui fait partie des jobs que tu voulais le plus au monde, là, à un moment donné, t'as pas le choix d'accepter ces fameuses responsabilités-là. Puis t'as pas le choix d'accepter la vieillesse qui vient avec, parce qu'on vieillit année après année. Puis j'ai des chums, moi, à 30 ans, qui ont commencé à décéder, Audrey. Puis plus souvent, parce que du quartier où je viens, c'est un quartier un peu plus particulier, plus souvent, c'était une décision personnelle qu'ils avaient prise. Là. Ou d'autres, c'était des accidents, ou d'autres, c'était des maladies. Tu sais, j'ai des chums, Jean-Marie Brousseau, c'est drôle, je suis allé au CERN hier, puis j'ai parlé à lui, c'était un expert chasse-pêche. J'ai pensé à lui, c'est-à-dire, puis il était au CERN, il venait faire des chroniques avec nous autres. Jean-Marie avait 65 ans. Il était plus énergique que n'importe qui. C'était un expert de pêche. Il amenait des enfants au Chute Montmorency, c'était des classes scolaires, là. Puis il leur montrait à pêcher et tout ça. Puis à un moment donné, il me dit, Yann, j'ai le cancer. Là. Tu comprends que ça m'a décalissé. Je suis quelqu'un d'assez sensible sur ces affaires-là. Puis après ça, 6 mois plus tard, Yann, je suis guéri. Il m'a menti à ce moment-là. Puis quelques jours plus tard, puis je ne sais pas si on t'en avait parlé, mais Laurence était avec moi, Laurence Gagnon, qui travaille avec nous autres dans notre station soeur un week-end. Quelques jours plus tard, on a appris que Jean-Marie, c'était fini, puis il fallait aller le voir. Puis j'ai osé avec lui, puis il m'a dit, il était un peu mêlé, puis il avait une perruche, il avait sa perruche sur sa tête. Là.
L'image est forte.
Ah, il était parfait, Jean-Marie. Puis il me dit, Yann, c'est un privilège de vieillir, sache-le. Puis à partir de ce moment-là, ça fait pas tant d'années que ça qu'il est décédé. Des fois, le temps passe vite, mais je veux pas. Je me rappelle pas exactement quand est-ce qu'il est décédé, mais je me souviens de. C'est un privilège de vieillir, c'est ce qu'il m'a dit. Puis il a raison. Puis il aurait aimé vieillir jusqu'à 70, 80, 90. Un maudit beau bonhomme qui aimait la vie, puis qui était tout le temps heureux.
Ton anxiété.
Puis à partir de ce moment-là, là. À chaque année, ça me fait chier de faire ma fête. T'as pas idée, là. Ici, j'ai caché le fameux tag là, qu'on a sur le frigidaire, là, sur la journée de ma fête. Ça me fait chier. Mm. Mais je me dis à chaque fois, « Hey, moi, je suis là. Ouais. J'ai des chums qui sont plus là. »
T'as
je pense
raison.
Que c'est en vieillissant qu'on a moins peur de vieillir parce qu'on se dit, hey, Griff, je suis encore là, je suis encore en forme.
J'ai bon, la chance.
C'est relatif là, quand tu dis, je suis encore en forme puis tu boites à chaque matin. Là. Mais c'est un privilège.
On a un contrôle là-dessus, par exemple. Ouais. Quand tu as la santé, tu es capable de faire en sorte de peut-être être un peu plus en forme. Mais tu as raison que c'est un privilège. Puis tu vois, je trouve ça ironique parce qu'on dirait que quand on est jeune, là où on devrait profiter du temps à fond, on veut vieillir. Moi, je me souviens quand j'avais 16 ans, là, je sais pas si t'étais de même, mais moi, j'avais donc hâte, tu comprends, d'être dans vingtaine, puis d'être une adulte, puis d'avoir des responsabilités, puis je trouvais le temps long quand j'étais jeune.
Mm-hmm.
Puis j'avais hâte d'être... Je pense que ça venait avec le fait que je voulais être prise au sérieux, peut-être. Puis tu vois, maintenant, on dirait que j'ai le thinking qui commence à changer en me disant comme « Whoop, là, OK ». Tu sais, mine de rien, claquement de doigts, puis là, ben j'étais à la trentaine, puis là, ben bientôt, ça va être la quarantaine, puis la cinquantaine, puis la soixantaine, tu sais. Puis je trouve que plus on vieillit, plus le temps passe vite aussi. Fait qu'on dirait que t'es peut-être plus reconnaissant aussi des moments que tu passes, puis ben, du fait que tu es encore là, finalement.
Oui. Ah non, c'est assez particulier, puis tu sais, il y en a qui refusent de vieillir, là, parce que là, les cernes, ils grossissent, là, puis là, t'as de l'air plus fatigué, puis là, ta face amaigrit, ton visage change, puis là, ben, tu te dis, tiens, je vais mettre des filtres, puis, mais ça commence jeune, les filtres, là. Hey, les filles refusent de vieillir très rapidement, là, à 20 ans.
Début vingtaine, ouais. C'est capoté, là.
T'sais, c'est tellement que je parlais avec c'est quelqu'un qui est au service des communications de la ville de Québec. Puis ce qu'il me disait, cette conversation-là date d'à peu près un an, hein, ce qu'il me disait, c'est que quand il y a des ados qui sont recherchés,
ouais,
c'est rendu difficile de trouver une photo d'eux sans filtre.
Fait que c'est difficile d'avoir les vrais traits de la personne.
Fait que la personne est peut-être Seigneur. En danger, mais les gens ne la reconnaissent pas parce que la photo qui a été diffusée dans les médias, c'est une photo qui est retouchée.
Oui, Snapchat, genre. Là. Je trouve ça tellement, exact, tellement triste. Là. Mais même, tu sais, tu parles de filtres sur les réseaux sociaux, mais on va parler de fillers. Là, de
fillers,
de botox,
c'est quoi ça?
Des fillers, c'est... Mon Dieu. Je vais te dire botox. Même principe, c'est tu remplis tes cernes, tes fillers, tu remplis. Avec des seringues dans les médico-esthétiques. Puis il y a des jeunes dans la vingtaine, début vingtaine, qui ont rien en face encore, là, qui déjà, par prévention, pour faire partie de la gang, ou vont aller faire des fillers. Puis je regardais sur mes réseaux sociaux, j'ai cette réflexion-là en fin de semaine. Puis je disais à mon chum, crime, je commence à avoir des petites pattes doigts, tu sais, puis j'ai rien en face encore, là, ça va, là. Mais j'étais comme, ah, il me semble, je suis va chez le bonhomme, toi. Il me fait signe comme si, ben, t'en as, là.
Tu pourrais te forcer un peu.
Je me suis maquillée en plus aujourd'hui, ce qui est vraiment rare. Mais bref, tout ça pour dire que je disais à mon chum, Colin, tu sais, je commence à avoir des marques de vie. Puis je pense pas que je ferais faire de filler, du moins pas avant les 10 prochaines années, là, si jamais je prends cette décision-là, parce que quelque chose que je trouve beau dans le fait de vieillir aussi, c'est l'expression de ton visage.
Oui, on me dit agent de comblement.
Agent de comblement, merci, en français, oui. Mais tu sais, là, je trouve ça beau, mettons, une fille, un gars qui rit, puis tu vois l'expression, tu vois les pattes de doigts, tu vois les plis dans le front, tu vois la face bouger parce que cette personne-là vit une émotion. Puis je regarde des fois des vidéos sur Internet où la fille est morte de rire et il n'y a rien qui bouge dans sa face. Je suis pas capable de te dire si elle fait juste sourire ou si elle est vraiment éclatée, tu sais.
Ouais.
Puis ça, je trouve ça poche, là.
Mais c'est des gens qui refusent de vieillir, parfois en raison de leur carrière, tu sais. Regarde peut-être. Les actrices à Hollywood, là, qui veulent rester comprends. Le plus longtemps possible à faire des films. Tu sais, il essaie de rester jeune le plus longtemps possible. Demi Moore, là, tu sais, son dernier film qu'elle a fait, c'est un film complètement weird, soit dit en passant. Là, si vous l'avez vu, la finale est juste capotée. C'est pas mon genre de film, mais ma blonde écoutait ça, puis je me suis dit...
C'est The Substance, en passant.
The Substance, ouais. Ma blonde écoutait ça, je me suis assis à côté d'elle, puis pour une fois, je me suis pas endormi. Puis on a regardé ça à télé. Puis, criff, elle a de l'air d'une femme de 40 ans. Là.
Ouais.
Puis elle a plus 40 ans de mémoire. Là.
C'est admirable, par exemple, que...
Elle approche 60.
Oui, puis tu sais, c'est sûr qu'elle, bon, oui, elle a eu l'aide au travers des années du médico-esthétique, mais quand même, ce qui a été beaucoup souligné, c'est un, sa performance, mais le fait de se mettre carrément à nu, là,
oui.
Sans gêne, là, je veux dire, le corps est vraiment pas parfait, veut pas, à cet âge-là. Mais oui, mais en même temps, on a les possibilités, fait que c'est dur de juger, tu sais, on est rendu là, puis on a les possibilités de le faire puis de ralentir ce vieillissement-là. T'sais, on a un texto qui rentre. En passant 88-971-101, c'est le fun, vous réagissez beaucoup ce matin. Là. La personne nous dit « Ma fille a 25 ans et elle est comme ça avec ses produits. Elle utilise ça, justement, le médico-esthétique. Elle appelle ça la génération Kardashian. » Je trouve ça triste.
Oui, mais moi, j'ai assisté à les premiers débuts des Kardashians. Ouais. Hein?
Je peux pas juger en même temps. Là.
J'étais en voyage aux États-Unis puis j'étais avec trois de mes chums puis on marchait sur la strip à Vegas.
Mm-hmm.
Puis les filles venaient toutes de se faire opérer le péteux.
Ah, mon Dieu, oui.
Puis c'était tellement démesuré, Audrey, mm-hmm. là, que nous autres, on riait à voir la réaction des gars qui passaient. Parce que nous autres, on avait les filles qui étaient en face de nous, mais ils marchaient dans le même sens que nous autres.
Des bottes lifts.
Fait qu'on voyait juste le gros péteux. Mais les gars qui les croisaient se reviraient toutes pour regarder les fesses. Puis je te le jure, comme dans les films, il y a des gens qui étaient en voiture, qui se sortaient la tête du char pour voir les fesses des filles. Alors que nous autres, tu sais, on n'était pas encore rendus là dans notre tête, là. C'était pas encore rendu ici, on était toujours un peu plus retardés sur les modes, là. Nous autres, c'était crissement laid, là.
Ouais.
Mais eux autres, semblait qu'ils trippaient là-dessus, parce que c'était la mode.
Les grosses courbes, puis petites courbes, faut que tu le dises vite, là.
Mais c'était les gros seins refaits, là. Ouais. Pas 10 000 piastres, genre. Ouais. 50 000 piastres! Puis les grosses fesses avec des prothèses là, sur les fesses.
Taille sablier, en fait, là.
Ah, mais c'était, non, mais c'était un 8, en fait.
Ouais.
Tu sais, quand tu regardes un 8,
ouais,
là, c'était les filles de dos.
Ouais.
Tu voyais les prothèses mammaires qui dépassaient pratiquement des épaules chaque bord. C'était dégueulasse. Puis j'espère juste que ces filles-là, aujourd'hui, se sont fait tout enlever ça, là, parce que ça devait être extrêmement difficile à supporter. Bien, les premières, les filles, les Kardashian, là, qui ont été prises en modèle, je veux dire, il y a des Américaines qui se sont transformées comme eux. Aujourd'hui, ils doivent pas bien filer.
Il y a des Québécoises qui vont au Brésil, qui vont à l'extérieur pour se faire faire ces chirurgies-là.
C'est le Brazilian butt lift.
Exactement. Parce que, un, ça coûte vraiment moins cher. Puis, il y a des femmes qui recrutent, c'est ça leur job de vie, ils recrutent des Québécoises pour aller se faire ramancher ailleurs. Et Hélène Boudreau, la fille de l'UQAM, parce qu'elle est connue, je l'utilisais, là. C'en est une, elle, qui a fait ça, qui est allée à l'extérieur.
Elle s'est pas fait enlever ça par la suite, elle?
Non, elle, en fait, a failli mourir.
Ah, c'est ça.
Elle a fait le Brazilian butt lift. Ça a pris vraiment du temps à guérir parce qu'elle, il y a comme quelque chose qui n'a pas fonctionné. Puis elle est en train de carrément pourrir, là. Il y a des photos d'opérations qu'elle a mis publiques, là, et noire. Noir, là. Parce que c'est en train de... Ça nécrose,
nécroser,
là. C'est horrible, là, tu sais. Fait qu'elle, elle a eu beaucoup, beaucoup de réparations. Il y en a qui vont faire des gens de liposuction, mais c'est à l'extrême, là, tu sais. On t'enlève vraiment tout le gras. On te strappe ça, là. Fait que même si tu reprends du poids après, t'as toujours le ventre qui est plat, plat, plat. C'est vraiment particulier, là. Puis le pire, c'est ça, tu l'as dit, c'est pas particulièrement beau. Puis c'est surtout que ça guérit pas bien. Fait que tu peux pas tant t'en sortir un coup que ces réparations-là sont faites. Les implants mammaires, ça se retire toujours, là. Mais c'est des grosses décisions, là. Puis en même temps, je dis ça, je suis privilégiée. Tu sais, je dois être privilégiée aussi, là. Je suis bien avec moi-même physiquement. Peut-être que ça aide au fait que je ressens pas le besoin d'aller chercher toutes ces agents de comblement-là, là, que ce soit sous chirurgie ou sous seringue. Mais c'est ça, je trouve ça triste. En même temps, c'est dur de juger parce qu'il y en a pour qui ça fait toute la différence du monde niveau confiance, Yann. Il y en a qui réussissent à passer à travers leur vie parce que ça fait en sorte qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes.
Parfaitement d'accord avec toi, c'est leurs affaires. Mais moi, quand j'ai vu ces filles-là qui étaient comme en forme de 8, là, j'ai le droit de
pas ça te perturbé.
Je leur ai pas dit, mais dans ma tête, j'ai le droit de pas trouver
le
ça
pire,
joli.
Le pire, c'est qu'on parle des filles, là, mais il y a des gars aussi qui se font mettre des implants fessiers.
Des gars?
Hey, t'as même pas idée. Des gars qui se font mettre des pecs.
Ouais, Arnold Schwarzenegger, si je me trompe pas, il y avait, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, il y avait les mollets puis les biceps de refait.
En implant. Ah ouais.
Ouais, puis je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, si on lui a retiré, mais bref. C'était un beau une belle discussion, ma très chère Audrey. Hey, juste faire une petite mention hier, j'étais extrêmement touché pour tous les gars qui nous écoutent. Puis les filles aussi, vous avez tous entendu parler de Marc-André Fleury. Marc-André Fleury, c'est un gardien de but qui est un Québécois, bien entendu, mais qui a roulé longtemps sa bosse dans Q, donc dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À l'époque, si je ne me trompe pas, il était pour Cap-Breton, donc le Screaming Eagles du Cap-Breton. Puis par la suite, il a été repêché par les Pingouins de Pittsburgh. En 2003-2004, il a fait une vingtaine de matchs dans la Ligue nationale de hockey. On est rendu en 2025 et il jouait hier son dernier, possiblement, du moins son dernier match à Montréal. Il n'avait plus l'uniforme des Pingouins. Marc-André Fleury a joué pour les Pingouins, il a joué pour le Knight de Vegas, il a joué pour les Blackhawks de Chicago, 45 matchs à peu près, puis sinon, depuis quelques années, je pense que c'est 4 ans à peu près, il joue pour le Wild du Minnesota. Toute une carrière, un gentilhomme, un gentleman, un gars qui est un game changer, puis il nous l'a montré encore hier, là, je veux dire, il a fait un blanchissage à 40 ans, je l'ai dit,
blanchissage
à 40 ans, puis de voir toute la gang du Canadien qui a resté sur le jeu après la game.
Ah, c'est plus grand que le sport.
Pour dire au revoir à Marc-André Fleury, effectivement, c'est plus grand que le sport, mais en même temps, c'est le sport. Le sport devrait toujours être comme ça. Puis Marc-André Fleury, c'est directement au temple de la renommée. Là. Je pense qu'il y a une année où il ne peut pas, puis après ça, il va pouvoir y aller, mais c'est directement là qu'il va. Toujours été reconnu comme étant un grand cabotin, là, que ce soit par ses collègues au hockey ou le coaching staff ou encore les journalistes. Faisait des coups à tout le monde, Marc-André Fleury.
Un sympathique.
J'ai jamais rencontré personne qui a détesté ce gars-là.
C'est vrai, hein?
C'est un gentilhomme. Puis hier, de voir les Pingouins de Pittsburgh, les gars du Wild du Minnesota qui étaient à Montréal, puis ils ont vu que Montréal avait honoré un gars de leur équipe. Les gars du Wild étaient touchés. Ils disaient, voyons donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a rendu hommage à Marc-André Fleury à Montréal. Puis les gars, c'était comme l'ennemi. Là.
Mais non. C'est beau!
Ben, c'est vraiment beau.
Tu sais, Mané, c'est l'humain aussi.
C'est vraiment beau. Donc, belle victoire de Marc-André Fleury et le Wild du Minnesota. 4-0 contre les Canadiens de Montréal. Rien ne va plus! On parlait avec... on parlait de sport tantôt. Coach Gilbert va probablement être là avec nous, puis Jeff Fortin aussi. Mais on va certainement parler de la performance de Marc-André Fleury. Puis surtout, sa carrière, là, plus de 20 ans dans la Ligue nationale, c'est quelque chose. Puis il a côtoyé les plus grands. Mm-hmm. Il a côtoyé les plus grands, puis il a toujours bien performé aussi devant les plus grands. Fait qu'on va en jaser. Sinon, aujourd'hui, on a le plaisir de parler de sexe.
Oui, bien, comme tous les vendredis, hein, Mademoiselle V qui vient faire son tour. Aujourd'hui, on parle de compatibilité sexuelle. Il paraît qu'on n'a pas nécessairement le contrôle sur la compatibilité sexuelle. Fait qu'est-ce qui détermine cette compatibilité-là? Moi, j'ai déjà entendu parler des fameux cinq... je vais les appeler, tu sais, les cinq langages de l'amour, là. Mais t'as comme les cinq types de compatibilité sexuelle aussi.
Ouais.
Fait que Mademoiselle V va venir nous jaser un peu de
pour
ça.
Pour un gars, c'est pas compliqué de savoir si t'es compatible.
Ouais, je pense que c'est peut-être... Ah, je suis pas d'accord.
Tu regardes pis tu dis « Oui! »
T'es niaiseux. Ça rentre-tu, ça rentre pas. Il y a quand même plus que ça quand on y pense.
Ben oui, on va discuter avec une experte tantôt. Ah ouais, Léon, au Carnaval de Québec, c'est en collaboration avec l'Auto-Québec. C'est 6 soirées sur la scène de l'Auto-Québec, sous le dôme, avec Mariana Mazza, l'humoriste, l'excellente Mariana. Les invités qui vont être là avec elle aussi pour le spectacle Tourne et plaisanterie. Il va y avoir Shaul Gia qui va être là, Sarah Dufour, Abstract, Karma Chameleons. Je vous le dis, moi, c'est mon band qui provient de Québec que j'aime le plus. Vous allez vous souvenir de la performance de Karma Chameleons. Et le 12 février, ben, c'est la soirée Zone Country. D'après moi, Gab Marino devrait être là pour danser le Hokey Breaky Dance.
C'est
non,
sûr.
C'est pas ça, hein?
Non, c'est, ben, c'est, t'es prêt, là, mais d'après moi, on va être un peu plus à jour dans les chansons country.
Mais dans tous les spectacles où on entend cette chanson-là, Hokey Breaky Dance, les gens dansent, là.
Mais oui. Mais tu peux danser en ligne, ça va bien n'importe quoi, Yann.
Mais bref, c'est la station Sœur qui organise ça, donc nous autres, on va certainement aller faire un tour le 12 février. Puis bon, il y a ça au Carnaval de Québec, mais il y a une panoplie d'autres activités qui vous attendent du 7 au 16 février. L'effigie, c'est 40$. Où c'est que tu peux te procurer ça? Ben, c'est au Couche-Tard participant, ou encore tu peux directement aller sur le site web du Carnaval de Québec. C'est carnaval.qc.ca. On s'en va en musique. L'excellent Clan de la Savate sur les ondes de boulevard avec Mandy Monaco. Ah, ça bouge sur le circuit routier de la grande région de Québec ce matin vers les entours de 6h30. Moi, j'étais sur la route, puis il y avait quelques petites sorties de route. C'était pas apparent, mais il y avait de la glace noire avec une fine couche de neige qui était sur le dessus. Ça, à chaque fois qu'il y a des conditions météo comme ça, les services de sécurité... C'est quoi?
C'est pervers.
Les services d'urgence savent qu'ils vont avoir une grosse matinée. Je ne sais pas si ça s'est estompé, les sorties de route, mais faites attention. De la grosse glace noire sous cette petite couverture mince de neige, ça glisse énormément. Fait froid, refroidissement éolien de moins 17 actuellement. C'est ce qu'on nous mentionne. Faible neige tout au long de la journée, tout dépendant des endroits où vous êtes. Minimum de moins 24, maximum de moins 6. Demain, samedi, ensoleillé. Avec un maximum de moins 14. Dimanche, ce sera ennuageux. Ennuagé, oui, avec un maximum de moins 12. Vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Merci de nous le partager.
Tu parlais de la route, il y a quelques ralentissements si vous êtes sur Laurentienne en ce moment, direction sud à la hauteur de la capitale. Sur le pont Pierre-Laporte aussi, dans les deux directions, là, quelques problèmes. Puis effectivement qu'à peu près partout, c'est encore pas mal glacé. Si vous êtes sur la route, évidemment, textez-nous pas, mais quand vous arriverez à destination, nous dire comment c'est à cette heure-ci, parce que moi aussi, tantôt, aux alentours de 8h30, là, c'était particulièrement difficile.
Tu fais comment pour... je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ton œil, là, mais tu viens d'avoir un bug.
Ah ouais, hein?
Ouais. Hein? Je pourrais soupçonner que t'es pas un être humain en ce moment.
Tu comme
un
qui a lagué.
Je me disais, pourquoi qu'elle me fait des clins d'œil répétitifs?
Non, il y a comme... Tu sais, quand ça saute, là... Pauvre petit.
Comment tu fais, toi, pour savoir qu'il y a de la glace noire en dessous?
Mais t'as pas d'adhérence.
T'as pas d'adhérence, mais tu fais comment? C'était ta voiture qui vire dans le vide?
Ma voiture a glissé, oui, elle vire dans le vide. Quand j'essaie de changer de côté, mettons, okay, de route, ça change pas facilement.
Moi, dans mon Wrangler, c'est vraiment le système d'antipatinage.
Ah, ça, c'est la merde, Yann. Faut vraiment que t'enlèves ça.
Non, mais ben, je le garde, là. Mais,
t'as pas le contrôle de ton genre.
Ben, je veux dire, s'ils l'ont mis, j'imagine que ça doit aider.
Non, moi, je trouve pas que ça aide. Non. Je trouve que ça nuit.
Tu leur écriras.
Je vais leur en parler.
Moi, quand la lumière d'antipatinage allume, là, je sais qu'en dessous, c'est extrêmement glissant.
Oui. Ben, je peux pas le savoir parce que je
l'ai fait dépasser à 120 km/h à matin.
Il y a du monde débile.
J'ai eu peur de ma vie. J'étais sur la glace noire, puis je roule pas vite. Là. J'ai un Wrangler Sport. Là. J'étais à 80 km/h, puis le gars, il est passé comme une balle.
Les gens sont
je me suis dit, lui, c'est clair que s'il se fait breaker d'en face, il en ramasse une méchante gang.
Oui, puis je pense que le monde réalise pas parce que, tu sais, ce matin, parce que ça glissait, t'avais les trocs qui mettaient du sel, puis qui ramassaient la neige, puis t'en avais une coupe, m'a dit, sur la route. Là. C'est parce que les autres, ils roulent à comme 15 km/h. Fait que quand tu roules vite puis tu le vois pas venir puis tu essaies de breaker, là, je soupçonne qu'une couple de sorties de route qui se sont faites de même.
Attention à vous autres, 10h37, on vient.
Qui n'a pas de souvenir des légendaires?
Boy, les gens sur Twitch doivent assister à nos conversations pendant la pause. Ils sont pas différentes des conversations qu'on peut avoir,
non,
toi et moi, quand on est en onde dans l'open mic. Parce que c'est des conversations qui touchent les êtres humains. Puis on était dans une discussion où on parlait de modifications corporelles chez nos enfants. Mon gars, mon plus vieux, a déjà commencé à me parler de tatou.
Là, il a quel âge, là?
Il a 11 ans.
Tabarnouche.
Il a hâte d'avoir des tatous. Moi, je lui ai dit, ben, les tatous, t'as pas le droit d'avoir ça, là. C'est fait pour les...
Mais
pas...
son père est tatoué de bord en bord.
Fait que là, il dit, ouais, bon, mais toi, ouais, t'es tatoué. Là, je dis, ouais, mais moi, j'avais pas de père. C'est pas pareil. Toi, t'as un père, puis ben, c'est ça. On a comme tendance à avoir l'impression que nos enfants nous appartiennent jusqu'à, ouais, la fin de leur jour, là. Mais nos enfants nous appartiennent pas. Ils ont leur propre vie, puis ils vont avoir à prendre leur propre décision.
Tu sais, mais qui est genre 17 ans, tu, ouais, devrais dire check pour tes 18 ans. Tu veux encore un tatou, on va y aller
se
ensemble.
Tatou ensemble.
Ouais.
Ouais. Non.
Non.
Non, non.
Ben non, mais pour vrai, tu sais, au moins tu serais là sous la supervision, ça ferait un moment parfait. Il va le faire anyway, Yann, je te l'annonce, là.
Ah non.
Il va le faire.
Non. J'ai dit, papa s'est fait tatouer parce qu'il n'y avait pas de père. Toi, t'as un père. Fait que tu vas choisir entre les tatouages ou ton père.
Ah, oh, ça, c'est chiant.
Ben oui, ça s'appelle la manipulation.
Oui, grosse manipulation.
Quelque chose du genre, mais j'essaie de repousser ça le plus loin possible. C'est, je sais pas pourquoi. Tu sais, les tatouages, c'est les tiens, ça t'appartient, c'est ta propre vie, tout ça. Puis je suis parfaitement conscient de ça, mais on dirait que quand c'est mes enfants, tu sais, mettons que ce soit tes enfants qui se font tatouer, je trouve ça cool.
Ouais.
Mais les miens qui se feraient tatouer, j'aurais de la misère.
Ben, il y a, ouais, le fait aussi que quand t'es ado, t'es pas supraconscient, puis tu choisis à peu près n'importe quoi que tu risques de regretter. Là, le papillon dans le bas du dos, mettons, c'est pas ta meilleure quand t'as 16 ans. Là, t'sais.
J'ai eu quelqu'un dans ma vie qui avait un dauphin dans le bas du,
ah,
dos.
Ah non!
Dans le bas du dos. Deux dauphins.
Non.
Qui formaient un genre de. Comme le signe 69, là, ouais, le yin et le yang.
C'est
là,
épouvantable.
Bon, ben, ça ressemble plus à des dauphins.
Winnie the Pooh. Moi, je pense que c'est.
T'as eu un Winnie the Pooh?
Non, je pense que c'est une des pires choses.
Que t'as vu?
Ben, salut, mademoiselle V.
Allô?
Où ton Winnie the Pooh?
Mais moi, j'ai pas de Winnie the Pooh.
T'es vierge de tatou, toi?
Non, j'en ai, puis je les regrette parce que c'est, oh, des, ouais, tout petits tatouages. J'avais pas beaucoup de budget à l'époque, ouais, j'étais jeune. Fait qu'au lieu d'accumuler mon argent pour m'en faire des tatouages qui avaient l'air de quelque chose, puis qui voulaient dire quelque chose pour moi, j'achetais ça à coût de 40 puis 50 piastres avec des, non, petits minuscules tatouages, puis j'en faisais partout, mais ça n'avait aucune signification pour moi. Je prenais ce qu'il y avait dans le livre de moins cher. Puis that's it.
Ah, ouais, hey, tu veux juste te faire tatouer.
Ben,
j'ai trouvé quelque chose.
M'exprimer.
J'ai vu quelque chose de cool sur les Spotted. Il y a quelqu'un qui dit « Salut, la Saint-Valentin s'en vient. Je recherche une Julie comme conjointe. En passant, j'ai déjà le tatou. »
Oh mon Dieu, que c'est drôle. Ah, non, mais ça, là, ça, c'est là où je juge. Réfléchis. Tu fais jamais tatouer le nom de tes enfants.
Ouais, il y a des gens qui sont intenses.
C'est tout.
Qui vont se faire tatouer le nom de leur conjointe,
ah, ou
leur conjoint.
Non, non, non.
Mais sont intenses. Moi, je trouve ça beau à quelque part, OK? Mais quand ça finit, tu fais quoi, là?
Mais non, mais fais un tatou qui match à la limite, là, je sais pas, le poivre et sel, là. C'est quelque chose qu'il y a juste toi qui sais que ça signifie ça. Pis...
Ouais, genre de code, là.
Moi, le tatou que j'ai sur mes côtes, là, c'est mon ex qui l'a dessiné, tu comprends?
Ouh.
Puis il était là.
Petit chum, pis... il donne-tu des bisous, là?
Il fait le tour.
Petit chum, il apprécie pas particulièrement mes tatous. Il est vraiment... Le dernier que j'ai eu, on était ensemble, puis il était pas content.
Je peux-tu savoir, petit chum, pourquoi tu te promènes tout le temps avec un fer bien rouge dans la maison?
Mais tu sais, je veux dire, c'est pas son nom à lui qui est écrit, mais je veux savoir à jamais que ça représente, ouais, un moment où je suis allée avec lui, ça reste significatif. Mais tu vois, j'ai pas de regrets, moi, contrairement à toi.
Non.
Tu sais... Bon, c'est sûr que moi, je suis quétaine. Ils ont des significations puis des histoires.
Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça qui manque.
Mais son lettre, là. T'sais, celui que j'ai ses côtes, il est vraiment lettre. On dirait un gros barbeau. Il est trop épais.
Mais ça raconte une histoire. Moi, ça raconte juste l'histoire du 12 août 94 quand
t'as
j'avais
fait faire
rien
un bonhomme
à faire,
sourire puis genre pour être belle
ça.
Un peu là.
Puis that's it. Je pense qu'il faut que vous ayez une pensée derrière ce que vous voulez vous faire, je pense. Avoir une idée de ce que ça veut dire pour vous autres avant de le tatouer sur votre corps à vie, là, comment.
Je suis pas encore mère.
Faut qu'il y ait une
là.
Signification vraiment intense.
Ben, non, mais il y en a que c'est
tes
pas
enfants,
nécessaire.
Moi, tes enfants, je trouve ça super, super correct. Moi, l'histoire de ma vie est sur ma peau. Puis j'ai pris un artiste que je savais qu'il allait réaliser exactement ce que je lui avais demandé. C'est mon chum Jay Marceau que j'ai reçu dans Marceau Soir. C'est une machine de guerre comme tatoueur. Là. Si tu veux de la couleur, c'est un des meilleurs au monde, là, à mes yeux, à moi. Puis, mais il y a une histoire derrière ça. Je ne les regretterai jamais. Mais tu sais, je pense à tous ceux qui se font tatouer d'en face. Vous avez le droit, soit dit en passant, si vous êtes barbier, coiffeur, tatoueur, mais si tu travailles dans le service à la clientèle, ça se peut que des fois, les employeurs soient moins...
Ça joue contre toi, oui.
Ben oui. Mais quoi que les choses changent là, avec le temps, là, puis il y a une rareté de la main d'œuvre aussi, fait que tu acceptes des affaires que tu n'accepterais pas normalement, mais c'est sûr que si les gens se font tatouer d'en face, c'est un petit peu plus difficile.
Oui, mais quoi que c'est tellement populaire avec les artistes aujourd'hui qu'on dirait que c'est rendu une mode, là. Mais moi, tu vois, ma mère, je suis reconnaissante pour une chose. Je pense qu'elle savait qu'elle pourrait pas m'empêcher de faire ce genre de petites niaiseries-là d'ado. Fait qu'elle m'a juste éduquée sur le fait que arrange-toi pour qu'ils soient dans des endroits où t'auras pas de regrets au-delà du tatou. Fait que moi, ils sont tous cachés. J'en ai un dans le dos, j'en ai un dans la nuque, puis j'en ai un ses côtes. Fait qu'au quotidien, tu peux pas les voir. Fait qu'ils m'appartiennent. Puis ça aussi, tu vois, moi, c'est important pour moi de me dire, peu importe ce que je fais, ça fait partie, mettons, de mon histoire, de mes décisions. Bien, c'est à moi, je les garde pour moi, je les cache, tu sais. Puis je sais pas, je vais être comment, mais que je sois mère, probablement que, justement, tu changes parce que tiens, puis là, tu veux protéger.
On devient weird.
J'en doute pas. Le pire, c'est que j'en doute pas, mais j'espère que je vais retenir comment moi je réagissais parce que j'imagine qu'ils tomberont pas loin de l'arbre. Puis moi, j'étais très... Si tu me disais « fais pas ça », on dirait que je me disais « pourquoi je veux pas que je fasse, je vais l'essayer ».
Moi, je me promenais, là, je m'enchaînais de la gomme, j'avais les mains dans les poches, puis je vais être le père le plus cool de la planète.
Puis finalement, t'es un papa poule.
Puis si tu demandes à mes gars si c'est moi le père le plus cool de la planète, eux autres seraient prêts à se faire adopter par un plus cool, je peux te le dire.
Oh,
ah, tabarouette. Madame V, mademoiselle V, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Content de t'avoir avec nous autres aujourd'hui. On parle d'un sujet extrêmement sérieux qui s'appelle la compatibilité sexuelle.
Oui, et non la comptabilité.
Comptabilité.
Ben, ça, on fait ça chaque mois.
Il y a certaines carrières où tu peux faire de la comptabilité sexuelle, mais ça, c'est autre chose.
Effectivement.
Ça sera pour une autre chronique.
Vous avez déjà sûrement remarqué, ça vous est peut-être déjà arrivé, sur papier, la personne que vous vous apprêtez à rencontrer en date est belle, elle a une belle personnalité similaire à la nôtre, elle a des buts communs, ça match, les photos sont belles, il est sexy, il est beau, puis on se rencontre, puis là, quoi? Peut-être. Il ne se passe rien. Il n'y a comme pas de chimie. T'sais?
C'est plate.
Il y a quelque chose, il manque un petit quelque chose, mais on dirait que c'est pas comme... On dirait que c'est forcé.
Okay. Ouais. Est-ce que ça, c'est un phénomène, tu sais, les gens qui se posent des questions, à savoir, bon, la compatibilité sexuelle...
C'est sûrement qu'on parle de comptabilité?
Est-ce que ça, c'est un
phénomène...
Non, mais
ça m'est arrivé toute la soirée.
Est-ce que ça, c'est un phénomène plutôt féminin? Est-ce que les gars se posent ce type de questions-là, mademoiselle V?
Non, parce que... Puis les filles, pas tant non plus. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment inné à l'intérieur de nous. Vous allez voir que la compatibilité sexuelle, c'est quelque chose qu'on contrôle, mais qu'on contrôle vraiment pas. Hein? Ça vient vraiment
Je pense que c'est un feeling, c'est ça.
C'est ça, ça vient de nos gènes. Puis, peut-être que les filles, on est un petit peu plus ouvertes à cette voix intérieure-là qui nous dit « pas sûr » ou « Et alors que l'homme peut-être est peut-être moins ouvert à écouter cette petite voix intérieure-là ou ce petit red flag, il manque un peu de piquant ici. Là.
Mais sais-tu, mettons qu'on l'image de façon plus claire, la compatibilité sexuelle, ça peut-tu s'exprimer par est-ce qu'on a les mêmes désirs? Est-ce qu'on se touche de la même manière? Est-ce qu'on se comprend? T'sais, j'ai l'impression que c'est une question de, sans parler, de communication physique. Il y en a là, qui disent on s'emboîte bien quand on dort. J'ai l'impression, c'est est-ce que tu t'emboîtes bien dans une relation sexuelle? Tu t'emboîtes de toute manière, tu vas me dire, mais t'emboîtes-tu bien?
J'ai souvent eu ce. En fait, j'ai souvent intercepté ce type de discussion-là chez les filles. Ayant travaillé dans la restauration et dans les bars une bonne partie de ma vie, les filles disaient souvent « Hey, sérieux, au lit, là, c'est le meilleur, on s'entend vraiment à merveille, mais pour le reste, je suis plus capable.
Ouais.
J'ai de la misère à le laisser parce que au lit, ça va super bien. »
Exactement.
C'est weird, hein?
Mais oui, c'est weird.
C'est weird.
L'inverse est aussi vrai.
Exactement.
Là.
Quand tu te rends compte que tu t'entends sur tout, mais que quand tu viens pour faire l'amour, faut que tu y penses où je mets mon bras, tu sais.
Ouais.
C'est comme si ça se faisait pas naturellement. En fait, la définition officielle, si on veut, c'est le fait d'évoluer en harmonie dans ta relation amoureuse ou la sexualité. Puis tout ce qui l'entoure, hein, se fait sans trop de difficultés, un peu comme un ballet, là, tu sais, tout, il n'y a rien à penser, tout se fait tout seul. Pour les gens qui l'ont déjà vécu, ça va de soi, on comprend ce que je dis là. Il y en a qui l'ont jamais vécu, puis ils se disent, voyons, de quoi elle parle.
La plus grande tragédie, je pense, c'est quand tu as trouvé ta personne au niveau personnalité, mentalité, but, principe, valeur, mais qu'au niveau sexuel, ça fonctionne pas. Avez-vous vu Sex Life sur Netflix?
Non,
c'est je vous le conseille pas tant, là, en fait. Là,
c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu.
Je vous as-tu remarqué le ton, à quel point il ne fit pas avec ce qui est arrivé après? Tu sais? Avez-vous vu Sex Live sur
non,
Netflix?
Mais c'est Kitten.
Je vous le conseille pas tant.
Mais la fille, elle a le plus beau gars à ses côtés. Ils ont deux beaux enfants. Le gars, tu comprends, il réussit dans la vie. Il est sexy, c'est un maudit temps, on va te dire. Là. Il a tout pour lui, tout. Puis elle commence à m'amener à juste penser à son ancienne relation où le sexe était donc parfait, puis était donc bon, mais le gars, c'est un trou de cul.
C'est-tu la fameuse scène où, dans la douche, le gars, il y a un méchant gros pénis, puis le nouveau chum de la fille va challenger le gars dans la douche?
Puis honnêtement, c'est beau visuellement. Là. C'est une très bonne série visuellement. C'est extraordinaire visuellement.
Ah non, mais hey, sérieux, là, Mademoiselle V, tu l'as pas vu, là?
Non.
Mais c'est une méchante maillotche.
C'était impressionnant.
Mais crois-moi, je vais le voir.
Ouais, je te le conseille.
Je n'avais entendu parler par la gang de filles avec qui je travaillais dans le temps. Puis là, ils m'ont montré cette fameuse scène-là où le nouveau chum de la fille se pose des questions à savoir pourquoi l'ex était tant désiré au niveau sexuel. Puis il suit jusqu'au gym, jusqu'à temps que le gars prenne sa douche. Puis après ça, il regarde la graine. Puis c'est un genre de 12 pouces, mais pas bandé, là.
Shit, hein?
Puis là, ça a été révélé plus tard,
mesdames,
qu'on a ajouté une prothèse pour faire jaser.
Mais là, c'est sûr, ils n'ont même pas le droit.
Parce que des gars de même, ça n'existe pas.
Ben non, ça n'existe pas.
Jamais.
Absolument pas. Puis, tu sais, je veux dire, il pourrait avoir une énorme appareil puis être très mauvais au lit, là. Tu sais, moi, j'ai vu ça plein de fois.
C'est juste que pour les gars, tu sais, c'était comme assez évident là, que tu disais un peu, là, moi, je passe après cette remorque 40 pieds.
Oui, mais attends, si tu sais pas quoi faire avec, t'es pas plus avancé.
Moi, j'ai un petit Jeep puis lui, il a une remorque 40 pieds, là.
On n'a pas les mêmes moyens.
Ouais, fait que, ben c'est ça, tu sais, cette compatibilité sexuelle là, c'est ça, c'est on la maîtrise pas, c'est quelque chose qui vient nous chatouiller si on veut. Puis tu sais, dans le temps des Cro-Magnon, c'était notre seul critère de sélection là. On s'entend, là. Là, aujourd'hui, on a rajouté toutes sortes d'affaires à l'amour. Hein? On n'a plus juste besoin de sexe. Il faut communiquer, élever des enfants, avoir des buts communs. Puis tout ça, sans tuer personne idéalement. Là. Fait que ça, c'est comme beaucoup. Hein? Fait qu'on a tendance à oublier cette compatibilité sexuelle-là ou de s'engager, même si elle n'est pas présente nécessairement. T'sais.
Est-ce que c'est obligatoire à une relation, dans le sens que si t'es pas compatible sexuellement, ça peut-tu se régler avec le temps, ça, là?
Ça parce dépend que des individus, ça dépend des générations.
Ah ouais, hein?
Ouais.
Ben oui, ça peut se régler dans le sens que...
C'est un pénis de glace, là.
Est-ce que tu vas avoir cette compatibilité sexuelle-là? Peut-être pas, mais il y a des moyens d'améliorer ta sexualité dans ton couple pour que ce soit suffisamment intéressant pour avoir envie de rester puis équilibrer toutes les autres facettes. Parce que, bon, ça peut être facile de pimenter ta vie sexuelle, mais mettons, là, t'as juste ça en commun. Là.
Ouais.
Hein? Qu'est-ce qui va se passer le jour où, mettons, je sais pas moi, tu tombes enceinte puis t'as plus de relations sexuelles pendant un bout de temps? Ou si une panne... À un moment donné, une panne sexuelle au niveau du couple, ça t'offre pas la run parce que tout le reste sera pas là.
Mais quand je dis ça dépend des gens, mais ça dépend aussi des générations, c'est qu'anciennement, la qualité de la relation sexuelle n'était pas aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui en 2025. Tu sais, tu trouvais ton partenaire qui était ton voisin, parce que je veux dire, les gens, ils étaient tous dans des petites bourgades. Fait que ils rencontraient lui qui était célibataire, c'était un beau célibataire, tombait en amour avec eux, se mariait très rapidement. Puis après ça, venait le sexe. Mais ils restaient ensemble toute leur vie, pareil, même si le sexe n'était pas si bon que ça. Pogner un podcast aussi que j'ai trouvé franchement intéressant où des filles disaient clairement qu'eux autres, en bas de la ceinture, ils ne ressentent absolument rien. Mais ces femmes-là, s'ils veulent être en couple avec un homme, il va falloir que l'homme soit assez évolué et assez ouvert d'esprit pour dire, OK, pour tout le reste, on s'entend à merveille. Pour le sexe, c'est un petit peu plus difficile, mais on va travailler pour essayer de se trouver un terrain d'entente.
Ouais.
Je ne suis pas sûr que les jeunes d'aujourd'hui, en 2025, sont prêts à concéder beaucoup là, mais, pour ce qui est de la qualité sexuelle.
Pas juste ça, tu as tellement de choix. Dans le temps, tu ne pouvais pas ouvrir ton Tinder ou ouvrir ton site de matchage. Là. Maintenant, tu peux faire ça demain matin, si tu veux. C'est surtout ça, en fait, qui change la donne. Si tu demandes à ton arrière-arrière-grand-père s'il était heureux sexuellement, il va te dire non. Si tu lui demandes est-ce que tu l'as enduré, oui. Pourquoi? Bien, parce que j'avais pas d'autre solution. Hein. Oui, en fait, à moins d'aller au bar du coin en ville, puis ou le bordel, c'est pas quelque chose qui était aussi facile qu'aujourd'hui. T'sais.
Mais ça doit te hanter parce que justement, il y a un choix à faire. T'es dans une vie où t'es en couple, t'es bien avec la personne avec qui t'es, puis au niveau sexuel, c'est difficile. Tu choisis de rester avec cette personne-là. J'imagine qu'inévitablement, t'as les jambes molles quand tu croises certaines personnes au quotidien de ta vie, tu sais, avec les années qui avancent. Sans trop t'en rendre compte, ça doit jouer dans la tête, ça, là.
Oui, mais en même temps, ça fait partie de la vie. On n'est pas fait nécessairement pour avoir des relations à long terme. Hein. On est fait pour féconder, puis par la suite, prendre chacun notre bord. Fait que c'est sûr que cette complicité, cette compatibilité sexuelle-là, comptabilité...
Complicité, tout ça, là.
Tout ça, là. Toutes ces affaires-là. En tout cas, bref, toujours est-il... Mais voulez-vous savoir d'où ça vient, ça, là, cette complicité sexuelle-là? Ben, d'où ça part, mettons?
Dans ma tête, c'était tellement naturel que la question se posait même pas. T'sais, c'est tellement dur à définir, mais absolument.
Ben, en fait, ça vient du bagage génétique. À la base, OK? C'est pour ça, là, c'est vraiment, on ne contrôle pas, là. Ton histoire est inscrite dans tes gènes, ça détermine un peu ta programmation, si on veut, tu sais. Fait que tu es automatiquement attiré sexuellement par les gens qui ont un système immunitaire différent du tien. C'est pour favoriser la complémentarité entre capital génétique. Fait que déjà, à la base, si je te mets dans une pièce, là, tu vas être attiré avec ces personnes-là seulement.
C'est pour améliorer la race, en fait,
exactement.
Que ça a été mis en place.
Exactement. Et comment ça se met en place? Bien, on va libérer des phéromones hein, qui vont agir un peu comme des messagers entre les individus. Puis ça va créer l'attirance physique. Ça va être...
Là, je t'arrête deux secondes. Oui. Les phéromones, c'est une vraie affaire qu'on dégage?
Oui.
Là. Est-ce que c'est une vraie affaire qu'on peut acheter?
Non.
Bon, merci, je suis contente. Parce que j'avais acheté, moi, pour
ça
faire un test.
Ben,
j'avais acheté ça, moi, deux petites bâtonnes de parfum phéromones, là, parce que je voulais faire un... Ça change absolument rien, là.
Non, c'est juste, ça change juste bon, en fait, ouais. C'est tout. Ça fait juste augmenter ta confiance personnelle. Donc, ces phéromones-là sont libérés par la peau, la sueur, puis la salive. Puis ça envoie des messages qui sont destinés à toutes les personnes qui sont fécondes dans la pièce. Tu comprends? Comme dans le temps, là. On s'en rend pas compte, mais comme dans le temps. Ils ont fait des expériences où ils ont mis dans la pièce des femmes qui avaient leurs règles et des hommes. Et les hommes ont été capables, sans se sentir, là, sans se pencher, là, juste en se promenant dans la pièce, de déterminer par instinct quelles femmes étaient en train d'être menstruées et lesquelles ne l'étaient pas.
C'est donc bien weird!
Au niveau des hormones.
Moi, je fais pas de joke là-dessus.
Non, c'est ça, retiens-toi. Tu rembarqueras dans la prochaine question.
Après, les fameuses phéromones, mais là, tu as les hormones qui vont se mettre en branle aussi. Là. Tu vas avoir, ça va sécréter de la dopamine, de l'endorphine, de la sérotonine, de la cytocine.
C'est-tu ce qui explique que des fois dans ta vie, comme femme, tu crois, puis les gars, ça doit être pareil, mais tu croises des gars que tu trouves pas tant beau, mais pour
exactement.
Une raison inexplicable, maudine, que tu finirais ta soirée avec?
Exactement.
Dieu merci
parce que
à ces raisons-là. Ouais.
L'attirance physique ne fait pas partie de l'équation, toujours. Il y a certaines personnes qui vont avoir leur type physique puis qui vont faire l'amour avec, ils vont faire, me semble, c'était comme... C'était so-so.
C'était moche.
Puis, des fois, tu vas te retrouver avec quelqu'un que tu n'aurais jamais pensé finir la soirée avec, puis tu fais « Oh my God! »
C'est une bonne run.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il ne faut jamais dire à une femme menstruée?
Tu me tapes déjà ses nerfs.
Coudon, t'es-tu menstruée?
Oui. Oui. T'es-tu patché? C'est encore pire.
Va voir dans la poubelle à la place, c'est moins pire.
Si vous voulez vous aider, les boys, ouais. Là, ça
d'après
se
moi, ça
pas.
Pourrait être pris en considération devant le juge.
Changez ça différemment. Mon amour, veux-tu de la crème glacée?
Oui.
D'après moi, si elle dit oui puis elle a des envies, vous avez votre réponse.
C'est le truc.
Oui, effectivement, c'est un très bon truc. Je l'aime beaucoup. C'est ça. Dans le fond, l'attirance physique peut faire partie ou non de l'équation, tu sais. Mais oui, effectivement, il y en a des fois qui vont dire, bon, c'est un laidron, mais ce laidron-là me fait monter au plafond, tu sais.
Moi, ça m'est déjà arrivé, là.
C'est un peu comme mon ex, là. On se salue, d'ailleurs.
tabarnouche, le tabarnouche.
On salue Monsieur Ledron.
Pas Ledron, mais je veux dire,
c'était pas ton, dans un bar, c'est pas la première personne qui t'aurait pensé finir.
En fait, ça n'a même pas rapport avec le physique, ça a rapport avec tout le reste. Tu sais, genre de personne que tu penses jamais avec qui tu vas connecter.
Ouais.
Puis là, ça se connecte tout seul, ça s'emboîte tout seul comme un casse-tête. Puis là, tu fais attends une minute là, qu'est-ce qui vient de se passer là?
Mon autre question, est-ce que tu as le contrôle sur ce que tu peux dégager si t'es pas quelqu'un qui pogne beaucoup? Je m'explique, tu sais, des fois on dit, ah, il me semble cette personne-là a du charisme, puis ça fait en sorte que pour une raison que j'ignore, elle est plus attirante qu'un autre, tu sais, elle dégage une confiance, elle dégage quelque chose.
C'est la confiance, oui, c'est ça.
Ça peut aider dans la balance.
Ben énormément. D'ailleurs, quand les gens consultent un coach en séduction ou quelque chose comme ça, la première chose qu'on leur dit, c'est pense même pas au reste tant qu'on n'a pas touché ta confiance personnelle. Faut que tu sois une machine de confiance, que tu crois en tes capacités puis en ton potentiel
sans
physique.
Être coquille, mettons,
ouais. Sans être coquille, exactement.
Ça marche-tu, ça, ces coachs de séduction-là?
Ben oui, ça marche. Ça marche absolument.
Parce que la plupart sont tous célibataires.
Oui. Mais c'est parce qu'ils peuvent en avoir une nouvelle à chaque jour. C'est ça l'affaire. Ils sont capables d'aller pêcher très souvent.
Je pense que j'aurais besoin de ça pour vrai. Il y a un moment dans ma vie où je ridiculisais un peu. Je me disais, voyons, c'est naturel. Tu
connais
que c'est
quelqu'un. Oui,
oui, ben oui. Ben oui. Mais je veux dire, dans un moment où demain matin, je me retrouverais célibataire, j'ai aucune capacité sociale de séduction.
C'est normal, surtout.
Je suis goofy.
Ça fait longtemps aussi que tu es en couple avec avec ton chum, puis ben tu passes pas nécessairement... La plupart des gens, aujourd'hui, passent leur temps sur les internets au lieu de se parler face à face. Fait que les jeunes, et c'est, j'aide beaucoup ces jeunes-là, en fait, je dis les jeunes, mais c'est les 25-35, mettons, là, qui n'ont pas appris c'est quoi un potentiel de séduction. En fait, ils ne savent pas comment séduire quelqu'un parce que, justement, eux autres sont pognés sur Internet puis ils le font par écrit, tu sais. Fait que ces gens-là, j'essaie beaucoup de les aider à travers ma page YouTube. Fait que allez voir si c'est votre cas. C'est pas nécessaire d'aller voir un coach en séduction, mais oui, améliorer votre confiance est probablement la première chose à faire.
Des skills sociales.
Skills sociales, tout ce qui vient avec. Le small talk, tu sais, on en a déjà parlé, là, d'être capable de parler de tout et de rien comme ça, ça va changer énormément le naturel. Puis là, tu vas te dire, hein, ça coule tout seul. Ce qui est un signe de la compatibilité sexuelle, dans un sens.
Ça peut, c'est relié, ça peut aider.
Absolument, absolument. T'sais, puis si on regarde là, les autres critères, là, bon, par exemple, il suffit pas juste d'avoir des phéronones qui se ressemblent puis de la génétique qui est différente. Il y a aussi une libido similaire. Hein? T'sais, il y en a qui vont accorder plus d'importance à leur vie sexuelle. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres pour qui ça va être plus circonstanciel, la libido. C'est-à-dire que ça va dépendre s'ils filent bien, s'ils filent moins bien, puis qu'ils en ont peut-être un petit peu moins besoin, mais surtout qu'ils sont moins curieux sexuellement.
Ça se peut-tu que des fois, l'ordre peut changer? Parce que moi, je ne me verrais jamais en couple avec une femme où je découvrirais pas qu'on aurait à peu près la même libido. Je sais pas si tu comprends
non.
ce que je veux dire.
Non, pas en tout.
Répète ce que tu dis.
Ben, tu sais, je... Pour moi, le sexe est hyper important.
Ouais. Mm-hmm.
Ça doit commencer par ça pour après ça développer une relation amoureuse. Mais je le sais qu'anciennement, on développait une relation amoureuse, puis après ça, on développait comme justement une libido similaire.
Ouais. Donc, toi, tu recherches la compatibilité sexuelle.
Au
c'est la première
départ.
Chose. Voilà.
Fait qu'il faut que je trouve ça beau, puis je recherche la comptabilité. Comment?
Compatibilité.
Sexuelle.
Oui.
Puis après ça, on développe une relation amoureuse. Mais je ne serais pas capable de développer une relation amoureuse avec une fille où la sexualité, ça va vraiment pas bien.
C'est sûr, mais en même temps, il faut que tu gardes en tête que ce n'est pas... les personnes qui se basent sur la compatibilité sexuelle, c'est pas nécessairement les couples qui vont finir à long terme.
Oh my God!
Malheureusement. Parce que, justement, la libido finit par être affectée d'un côté ou de l'autre. Puis, ben, ce qui reste, c'est le sexe, c'est sa part.
Mais ça veut pas dire que l'amour est moins fort, par exemple.
Non.
Parce que tu peux développer une relation amoureuse plus forte, sinon à peu près égale aux gens qui ont fait l'inverse. Là.
Absolument. Si tu travailles bien puis tu apprends à communiquer l'un avec l'autre, ça s'apprend. Le sexe et le reste s'apprend.
T'as pas le choix de mettre de l'eau dans ton vin, en fait. Je pense que c'est ça l'affaire. Puis t'as des gens qui veulent pas mettre de l'eau dans leur vin,
exact.
Qui veulent que leur vin soit bien pur. Fait que je pense que c'est là, des fois, que t'as de la misère à trouver ta bonne personne parce que tu cherches la perfection. Fait que là, rendu là, c'est, fais-tu des compromis ou t'en fais pas, tu sais?
En cas de doute, t'as le gaz au bout.
Oui, aussi.
Aussi. Mais sinon, je ne sais pas si vous voulez connaître les signes de compatibilité sexuelle. Bon, il y en a à la maison, là, je suis sûre qu'ils m'entendent et qu'ils me disent « Ouais, mais là, moi, je ne sais pas si je suis compatible avec mon chum ou pas. » Bon, mais tu sais, il y a 5 signes particuliers. Donc, le rythme, hein, le désir similaire en fréquence et en intensité. Donc, on vient d'en parler. Yann, toi, tu as besoin de quelqu'un avec qui tu aurais le même beat, si on veut. Et ben, si vous ne l'avez pas, c'est facile de faire des compromis. Ensuite, l'ouverture. Hein? Vous faites des efforts par rapport à l'autre. Vous êtes ouvert à ses besoins sexuels à lui aussi.
Parce qu'on n'est pas nécessairement pareil.
Exactement. Puis si c'est quelque chose qui est important à ses yeux, ça va l'être à vos yeux aussi. La connaissance de l'autre. Votre partenaire vous connaît sexuellement. Il sait ce que vous aimez et vice-versa. Mm-hmm. Communication. Vous dialoguez facilement sur vos envies, vos fantasmes puis vos limites. Bon, mettons, il se trompe de trou, il y a un malaise, on en parle.
T'sais, ouais, c'est important. Ça, au lieu de... Ouais.
Exact. Donc, communiquer est le 5e signe. Donc, si vous avez ces signes-là, vous êtes capable de maîtriser tout ça, ben ça veut dire que vous avez une compatibilité sexuelle. Et je rajoute le dernier, qui est un des plus importants, l'odeur.
Ah, oh, ouais.
Oui, c'est l'odeur.
Quand
de
ça
votre
pue,
conjoint.
Tu vas pas là. Jamais.
Non, mais l'odeur.
C'est au-delà de ça, je pense.
Tu sais, il y en a des filles qui vont dire moi, l'odeur de mon chum me répugne pas. Bon, ça sent pas bon, là. Je vais pas m'en badigeonner de son odeur d'aisselle, mais je vais pas non plus. C'est pas quelque chose qui va me dégoûter, si on veut, par rapport aux autres odeurs des autres personnes.
L'odeur d'une chambre de hockey, mettons.
Ça, je suis pas sûre, par exemple. Ça veut pas dire d'aimer son 2 œufs bacon le matin quand tu rentres dans la salle de bain, là.
Ouais.
Ça veut dire d'aimer l'odeur de ses ondes génitales et l'odeur de sa sueur. Les odeurs qui sont produites naturellement par le corps, si on veut.
Est-ce qu'on peut
Audrey, elle me regarde la bouche à moitié ouverte.
Est-ce qu'on peut identifier la compatibilité sexuelle avec son horoscope ou
c'est
avec son prénom?
Hey, oui, puis là, c'est le fun que tu dises ça parce que je ne savais pas comment l'amener, mais là, j'ai fait une petite folie.
Ouais.
Parce que quand tu tapes compatibilité sexuelle sur Internet, ça sort automatiquement faire votre compatibilité sexuelle avec l'horoscope ou votre prénom. Savoir si vous êtes compatible ou non.
Ça, c'est pas scientifique, ça.
Ben, je sais pas. En tout cas, je me suis dit, on va rentrer Yann puis Audrey pour le fun.
Oh, OK.
Voir qu'est-ce que ça donnerait comme compatibilité sexuelle. Juste pour rire.
On veut
là.
Juste te dire, Mademoiselle V, qu'on a commencé l'émission il y a une heure en disant qu'on était cousins.
Je le sais, j'ai écouté.
Finalement, on était du Saguenay.
Elle a de la famille au Saguenay.
Exactement. Donc, dans un monde où cela arriverait, écoutez bien. Ça me dit, cet homme cache sous ses airs de chaton un réel appétit sexuel d'un tigre de l'amour. Ce qui ne peut pas plaire à Audrey, dont la fougue se contenterait d'un amoureux trop délicat.
Oh ouais?
Trop délicat.
OK.
Yann est possessif, ce qui constitue pour elle un obstacle de taille. Pour la survie de ce couple, Yann devra se montrer plus doux envers l'autre et Audrey devra s'efforcer de l'apprivoiser.
Tu vois?
Voilà.
Bon, maintenant qu'on enlève le côté sexuel...
Non, mais t'as peu. Moi, je suis content, là. Mon astrologie...
Puis t'es un lion.
Oui, je suis un chevaux en malade.
Puis moi, je suis douce.
Trop délicat. Ouais. Hein? Tu te contenterais de la
trop
délicatesse.
OK, ouais, c'est intéressant. Ça. C'est fait qu'on serait pas tout à fait compatibles de ce que
ben,
je comprends.
J'ai l'impression que vous seriez des extrêmes.
On aurait des problèmes de communication.
Très
là.
Bonne nouvelle c'est pour ça. Nos conjoints-conjointes.
Effectivement. Quand même.
Mademoiselle V, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Pour les gens qui veulent rentrer en contact avec toi, on te contacte de quelle façon?
On va sur Google, Mademoiselle V sexologie. Vous allez me trouver. On a un site web qui s'en vient bientôt. J'ai bien hâte de vous montrer. C'est tout moi qui l'ai dessiné. Puis tout.
Oh, c'est le fun.
C'est toujours un plaisir.
Ouais.
11h10, j'ai des choses à vous parler. Ce soir, je ne serai pas là dans Marceau Soir puisque le vendredi, c'est exceptionnellement mon chum Garage à Dan qui va être là, Dan Demand, à partir de 18h. Je pense que c'est la meilleure musique à Québec, donc c'est à ne pas manquer. Le Rock and Chill demain, Audrey, qui va se lever peut-être plus tôt qu'aujourd'hui. 7h, Audrey va être là demain dans les studios de Boulevard 102.1. Sinon, Boulevard Durand avec Élodie, volume à la planche aussi. Puis ce dimanche 2 février, soirée spéciale, c'est la soirée des Grammys qui, depuis 1959, récompense le meilleur de la musique selon l'industrie. Donc, toute la journée, autant dans le Rock and Chill, le Boulevard Durand que dans le volume à la planche, bon, on va souligner en musique avec des artistes qui ont été primés au fil du temps ou qui sont en nomination pour le gala ce dimanche. Donc, il va y avoir des prix à gagner. On parle de billets pour aller voir Disney on Ice au Centre Vidéotron du 28 février au 3 mars. Et j'ai des billets aussi pour aller voir... Parabolus Complete Tool Experience au, ça va être au Grand Théâtre du Capitole et ça va être le 22 février, donc à surveiller en fin de semaine sur nos ondes. On revient. Boulevard 102.1. Tous les vendredis.